Sous le monde, à en perdre l'œil, une vie, une œuvre. Claude Monet par Stéphanie Katz.
Mais oui, Monet et les fleurs, Monet et le motif floral, il doit bien y avoir une équation. Comme quoi, les fleurs égalent les femmes. Il y a entre Monet et le motif floral quelque chose qui a trait à Monet et les femmes.
Si on imagine que l'eau dans le mythe a recouvert toute la terre, c'est-à-dire qu'à un moment de notre imaginaire, il n'y avait plus qu'un plan d'eau sur terre.
Les iris, c'est quelque chose qui s'offre, c'est de la couleur à l'état pur, et en même temps, c'est une forme qui s'offre à celui qui la regarde d'une façon extraordinaire.
Pour moi, Monet, c'est l'homme d'après le déluge, le premier homme d'après le déluge.
On a toujours la tendance à considérer Claude Monet comme un grand peintre du 19e, chef de file de l'impressionnisme. Quand on pense Claude Monet, on pense à 1874, la grande exposition chez Nadar. On pense aux années 80 de Giverny. On pense rarement à Claude Monet comme étant l'un des maîtres du 20e siècle. Celui qui, en introduisant dans la peinture cette vision de la lumière si violente, a conduit à une dissolution, en fait, à un traumatisme de la forme qui a permis à toute une génération, ensuite, cette libération sans suivre ce même chemin.
Je suis arrivé à Monet, je dirais, par les colorfields américains, de Kooning, et puis Pollock, finalement. Pour arriver à Monet, je suis parti de Pollock.
Est-ce que vous acceptez de m'accompagner pour un voyage sur les traces de Claude Monet au bord de la Seine, tout près du motif? Je vous propose plusieurs étapes. Peut-être la première, ce serait Rouen, puis ensuite Giverny.
Avec grand plaisir, vous savez, c'est la moindre des choses. Monet s'est beaucoup déplacé pour réaliser les tableaux que nous admirons. C'est vraiment la moindre des choses que de lui rendre cet hommage
et
de le suivre.
On y va alors, c'est parti.
Venez, je vais prendre votre parapluie.
Cette barbe blanchie de sagesse, ce grand-père jardinier, ses fleurs, son bassin, vous le reconnaissez bien sûr, Claude Monet. Et celui-là, qui peint comme d'autres font la guerre, s'acharnant sur cet écoulement du temps qui s'impose entre lui et la lumière, broyant le motif en série, se tenant ferme sur le front, là où le visible est promesse d'aveuglement. Moins connu, pourtant, Claude Monet, toujours. Première étape d'un voyage qui devrait nous mener sur les traces d'une vie brûlée sous le miroir du visible. Arrivé à Rouen, le bruit, la ville, l'époque.
Il était difficile en ces années-là d'ignorer Manet pour plusieurs raisons. D'abord parce que la peinture de Manet faisait scandale, qu'elle était très très difficilement acceptée par le milieu culturel. Elle était célébrée par les peintres eux-mêmes.
Par les avant-gardes de l'époque.
Par les avant-gardes de l'époque. Or, un des tableaux de Manet qui fait événement, et qui fait plus qu'événement, qui fait scandale, c'est le déjeuner sur l'herbe. Lorsque Manet apprend que ce qui pour lui est un jeune peintre, Monet, décide de refaire le déjeuner sur l'herbe et qu'il le fait comme tableau académique et comme tableau de salon, il est absolument furieux. Et il a ce mot qui témoigne bien à la fois de l'intelligence et de l'esprit de Manet. Il dit « je l'ai manettisé », autrement dit « je l'ai influencé, j'ai fait de lui un Manet, je vais le démonétiser, je vais lui faire perdre sa valeur ». Manet va se rendre très vite à l'évidence, à savoir que Monet ne cherche pas à faire du Manet, mais qu'il cherche tout simplement à être le peintre qu'il doit être.
Alors, comment ce déjeuner sur l'herbe de Monet fait-il l'épreuve de la peinture de Manet pour inventer son propre vocabulaire ?
En bon autodidacte et en homme fin et intelligent, lorsqu'il voit quelque chose qui l'intéresse, bien la bonne façon de le comprendre, c'est de le refaire.
Les premières apparitions de Camille dans la peinture nous la montrent dans les années justement 66,
Sylvie Patin.
65. Elle fut la compagne de Monet très tôt, sans doute un modèle peut-être rencontré à l'atelier, lorsqu'il fréquentait l'atelier Glaire. Et elle deviendra Madame Monet beaucoup plus tard. En 1867, se situera aussi la naissance de leur fils, Jean. Ils auront deux enfants, puisque Michel naîtra plus tard en 78. Et là, à ce moment, la future Madame Monet, Camille, vit tout à fait isolée à Paris, pendant que Monet est sur la côte normande, à Sainte-Adresse, et qu'il prend régulièrement des nouvelles.
En fait, donc, ils ont déjà un enfant ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble.
Ils vivent ensemble à Paris, mais là, au mois d'août, Monet, pour ne pas couper les ponts avec sa famille, a choisi de s'installer à Sainte-Adresse. Et d'ailleurs, cet été, là où il exécute la magnifique terrasse à Sainte-Adresse, de manière à avoir une relation la meilleure possible avec sa famille et entretenir une sorte de relation avec son père, qui acceptait fort mal la vie de son fils à Paris comme peintre, qui avait eu de nombreuses réticences au départ pour la vocation de Monet.
Et alors de quoi vit justement Monet à cette époque-là ?
À cette époque, justement, il vit à la fois des sommes que lui envoie son père, et il vit également de la vente, si on veut dire, de quelques tableaux. Basile lui achète très tôt les Femmes au jardin, et à raison de mensualités qu'il donne à Monet. Basile est d'une famille très aisée, de Montpellier-Rennes, et à ce moment-là, jouit d'une certaine aisance et en fait profiter Monet.
Je reste un peu autour donc de cette toile Femmes au jardin.
George Collins.
Récemment, on a vu cette toile partout. Vous voyez bien laquelle c'est. On voit quatre femmes dans un jardin. Il y a une qui flotte dans l'arrière-plan et trois qui sont assises à gauche. Et ce qu'il faut relever par rapport à ce qu'on va pouvoir dire, c'est qu'il y a un trou dans la terre à Ville d'Avray. C'est-à-dire que Monet décide d'enfoncer ou d'enfouir son tableau dans son jardin. Il est impossible d'oublier le sol dans ce tableau.
C'est-à-dire qu'il met en place un dispositif de travail.
Voilà, une technologie de la chose.
Ouais. Oui. Où en fait, puisqu'il a quand même en mémoire là le tableau de Manet, le déjeuner sur l'herbe, quand il travaille.
Oui,
il est en train d'essayer d'assimiler Manet et de le dépasser, enfin d'aller voir ailleurs en tous les cas, si ce n'est de le dépasser. Et pour ce faire, il travaille sur la perspective, et pour travailler sur la perspective et sur le motif, il a besoin de descendre le tableau très bas pour pouvoir travailler à hauteur d'homme le ciel, enfin le haut du tableau. Donc à ce moment-là, il enfonce effectivement son tableau dans la terre, il a fait creuser toute une tranchée, et avec un système de poulies, il monte et il descend le tableau qui enfonce comme une fleur dans la terre.
Oui, exactement. C'est vrai, il y a le tableau qui descend et qui ensuite remonte pour ensuite redescendre. Et c'est là où Monet commence à devenir lui-même.
Les peintres se retrouvent à l'été 1874 à Argenteuil, et c'est une période d'épanouissement pour tous les peintres, pour Renoir et Monet, qui d'ailleurs se peignent l'un l'autre dans le jardin d'Argenteuil, sur le bassin d'Argenteuil. C'est également l'époque où Monet confirme son attrait à la fois pour l'eau, pour les régates à Argenteuil, et à la fois pour les jardins. C'est pendant l'époque d'Argenteuil qu'il peint Impression, Soleil, Levant. Ce tableau, évidemment, maintenant, a une importance historique. Il est à l'origine du nom du mot de l'impressionniste, dans la mesure où Monet l'a choisi pour l'exposition dite des artistes indépendants, qui était une exposition en marge du salon. Pour le catalogue, l'idée était qu'on lui a demandé, évidemment, les titres et qu'il a dit, pour cette toile, mettez Impression. Impression, Soleil, Levant. Et d'ailleurs, il l'appelait toujours Mon Impression. Le mot impression a été repris par un journaliste, Louis Leroy, un critique dans le journal Le Charivari, qui, en sortant de sa visite de l'exposition, a dit « Impression, j'en étais sûr, il doit y avoir de l'impression là-dedans » et a intitulé l'exposition des impressionnistes.
Il y a un autre personnage, c'est Zola. Quel rapport, en fait, Monet va-t-il entretenir d'une part avec Zola, mais d'autre part avec cette notion un peu floue qui s'appelle le naturalisme, qui est une notion tout à fait d'époque?
C'est incontestablement Cézanne qui révèle la peinture à Zola. Et Zola va en effet se fixer sur la nouvelle école, et il y a un malentendu. C'est-à-dire qu'en un premier temps, il va défendre ses peintres, notamment Manet, que ce soit Monet, jamais Cézanne. Jamais son ami, jamais Cézanne. Jusqu'au moment où il va se rendre compte que peut-être, en effet, il n'y a pas de concordance et qu'il y a une ambition chez ces peintres qui va au-delà du naturalisme et peut-être même une petite note d'idéalisme, voire de mysticisme. Ce qui fait qu'il va faire machine arrière, moins dans ses articles, qui pourtant commencent à être critiques, moins dans ses articles que dans un roman qui va le brouiller avec tous ses amis. D'abord avec Cézanne, il montre toute cette génération comme une génération perdue, comme une génération condamnée à la folie. Ce roman, c'est l'œuvre où le personnage central s'appelle Claude Lantier. Je crois que Claude Lantier n'est pas choisi par hasard. Si on connaît le caractère de Cézanne, et si parmi toute cette génération de peintres, il y a vraiment un peintre qui est entier dans son caractère, c'est bien Cézanne. Or, le personnage de Claude Lantier est le personnage d'un raté, dont on dit constamment qu'il finira par se pendre derrière une de ses toiles, et la fin du roman, c'est l'enterrement de Claude Lantier. Ce qui est, à mon sens, une vraie crapulerie. En bon romancier, il constitue son personnage en référence au peintre qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire Cézanne, mais en utilisant dans ce caractère, d'autres caractères où Monet peut se reconnaître. Et l'aboutissement de cela, ce sera une lettre de Monet à Zola, qui n'est pas une lettre très violente, mais qui est une lettre chagrinée, et l'aboutissement total des rapports entre Zola et Cézanne, qui ne reverra plus jamais Zola. Et Monet prendra lui-même ses distances. Mon cher Zola, vous avez eu l'obligeance de m'envoyer l'œuvre. Je vous en suis très reconnaissant. J'ai toujours eu un grand plaisir à lire vos livres, et celui-ci m'intéressait doublement, puisqu'il soulève des questions d'art pour lesquelles nous combattons depuis si longtemps. Je viens de le lire, et je reste troublé, inquiet, je vous l'avoue. Vous avez pris soin, avec intention, que pas un seul de vos personnages ne ressemble à l'un de nous. Mais malgré cela, j'ai peur que dans la presse et le public, nos ennemis ne prononce les noms de Manet, ou tout au moins les nôtres, pour en faire des ratés, ce qui n'est pas dans votre esprit, je ne veux pas le croire. Excusez-moi de vous dire cela, ce n'est pas une critique. J'ai lu l'œuvre avec un très grand plaisir, retrouvant des souvenirs à chaque page. Vous savez du reste mon admiration fanatique pour votre talent. Non, mais je lutte depuis un assez long temps, et j'ai des craintes qu'au moment d'arriver, les ennemis ne se servent de votre livre pour nous assommer. Aujourd'hui, cette lettre aurait l'air d'une lettre relativement prudente. À l'époque, c'est très clairement une lettre de rupture.
« Donc une période un petit peu à Paris, qui laisse d'ailleurs place à ce qu'on peut appeler les dernières toiles de Monet consacrées à Paris, les toiles qu'on peut qualifier d'adieu finalement à la capitale, qui sont ces superbes vues de rues pavoisées, et elle rappelle la manière dont Monet perçoit la ville. C'est-à-dire que c'est un effet de grouillement, le mouvement des drapeaux dans le vent. C'est d'ailleurs l'impression qui se détache quand on lit sa correspondance. Il répète à tout moment « la ville me fait peur » et ses phrases aussi dans sa correspondance disant « je suis campagnard avant tout ».
L'agitation urbaine s'éloigne quelque part en arrière. Avancée solitaire du peintre, au plus proche des exigences du regard. Aventure en solo, pour un tout autre motif, vers le choc frontal, près, tout près, encore plus près de la verticalité du visible. Entrée en série de la tache des meules de foin, étirement de la tache en reflet de peuplier.
Avec les peupliers, la verticalité des peupliers, c'est-à-dire la façon dont les peupliers, évidemment, sont des lignes droites qui se pressent vers le ciel, est soulignée dans les tableaux de Monet. Elle est soulignée comment ? Parce que tout simplement, il ne peint pas des peupliers dans la campagne, il peint des peupliers au bord de l'eau. Or, qu'est-ce que c'est qu'un peuplier au bord de l'eau ? Eh bien, c'est une ligne droite qui se reflète dans l'eau. Ce qui fait que si vous regardez les tableaux des peupliers, vous vous apercevez qu'ils sont déterminés par une sorte de... une série de verticales qui répètent le côté droit et le côté gauche du tableau. Autrement dit, le peuplier permet de tenir la droite et la gauche de la toile et de renforcer le fait qu'il y a un côté au tableau, et que le côté du tableau, c'est ce qui renvoie à l'intérieur de la peinture. C'est pas quelque chose qui renvoie à l'extérieur de la peinture. Tout le trajet de Monet n'est pas quelque chose qui renvoie à l'extérieur de la peinture, mais toujours quelque chose qui renvoie à l'intérieur de la peinture. Vous avez ça avec le peuplier. Vous avez ça de façon différente avec les meules. Ou en effet, qu'est-ce que c'est que ces meules ? Ce sont des meules de foin, des meules de blé, qui sont dans les champs et qui forment des masses. Eh bien... Et ce qui est un paradoxe, de produire en effet une œuvre avec une ou deux masses qui viennent la ponctuer comme ça. On ne peut pas réduire le motif de façon plus sommaire que ça, n'est-ce pas ? À savoir une forme massive qui vient occuper le tableau. Eh bien, ces masses sont évidemment...
Qui fait tâche.
Et qui fait tâche d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce sont des plans. C'est-à-dire comment passer de la masse de la meule au plan général de l'œuvre et de la peinture. Eh bien, c'est ce qu'il réalise en un troisième temps avec les cathédrales.
Et en fait, alors, en parallèle à toute cette période d'euphorie, en tous les cas, de reconnaissance un peu publique du groupe des impressionnistes, pourtant, Monet vit une vie de misère, il est dans des grandes difficultés financières.
Il part vers Vétheuil, où il s'installe avec la famille Augelet. Oui, c'est une période très, très curieuse, qui d'ailleurs est souvent la période occultée, ce moment où Camille, très malade, meurt à Vétheuil en 1879.
Elle meurt de misère d'ailleurs, en fait.
Elle meurt en fait, il semblerait qu'elle ne se soit jamais remise de l'accouchement du second fils, Michel Monet, qui était né l'année précédente. Il semblerait qu'elle ait été évidemment très éprouvée par la dizaine d'années précédentes. Et cette période est celle où Monet est installé à Vétheuil avec la famille Augelet, la famille Augelet qu'il a connue dans les années 74.
Augelet, en fait, était un de ses collectionneurs.
Était un collectionneur, un important collectionneur, à tel point que c'est Ernest Augelet qui a possédé d'ailleurs une version de l'impression Soleil Levant. Ernest Augelet et vivait donc dans le château de Rotembourg à Montgeron avec son épouse Alice Augelet et plusieurs enfants, les enfants Augelet, des garçons et des filles, qui toute cette grande famille avec la famille Monet va s'installer dans une maison à Vétheuil, fait partager une maison. Il est exact que Ernest Augelet vivait aussi beaucoup à Paris, retenu par ses affaires, et qu'évidemment le décès de Camille a amené Alice Augelet à prendre une place de plus en plus importante et notamment à s'occuper des deux enfants de Monet.
Il y a là un tableau étrange
qui est le tableau de Camille sur son lit de mort.
Camille sur son lit de mort, une toile qui est d'ailleurs restée très longtemps chère à Monet et pour laquelle il avait certainement un sentiment assez complexe. Il s'en est d'ailleurs expliqué, Clémenceau le rappelle dans son ouvrage, qu'un jour, il n'a jamais voulu nommer Camille, mais il a expliqué qu'un jour, au chevet d'une morte, il s'est rendu compte à quel point la passion de peindre était plus forte, car au chevet de cette morte qui lui avait été chère, en fait, c'est donc Camille, il s'était emparé de ses pinceaux et avait tout d'un coup jeté sur la toile le portrait de cette morte au milieu des draps.
Au chevet d'une morte qui m'avait été très chère, je me surpris dans l'acte de chercher machinalement la succession, l'appropriation des dégradations de coloris que la mort venait d'imposer à l'immobile visage. Bien naturel le désir de reproduire la dernière image de celle qui allait nous quitter. Mais avant même que s'offrit l'idée de fixer des traits auxquels j'étais si profondément attachée, voilà que l'automatisme organique frémit d'abord au choc de la couleur. Monet à Clémenceau, 1928. Automatisme organique de la couleur, secousse du dessous ombré du regard. Femme peinture ou peinture femme, comment savoir? Corps aimé et chair pourtant fuyante. Euphélie, première nymphe, sacrifiée à l'ombre de la couleur. Effacement du temps, en bleu pâle, auréole de sable et cœur vert d'eau, comme englouti sous une rafale lumineuse, noyade du visage, de l'amour, de l'image, juste affleurant sous la surface du visible, retenu sous la caresse du flux, petit bouton de porcelaine broyé, qui plus tard, princesse nymphéa, remontera frontalement, tache-touche, crevant le cadre vide, en fleurs, ressuscitées, parées du givre brûlant de la peinture.
C'est une curieuse apparition, car il semblerait qu'il l'a traité encore une fois la figure comme un paysage avec tout l'ensemble. À l'époque, il travaille sur des effets de givre, des effets de neige à Vétheuil, et il y a une sorte de correspondance entre cette toile et les paysages de l'extérieur. On peut voir qu'à cette époque, lorsqu'on lit la correspondance de Monet, il est totalement perdu, désarmé. Il dit « Que vais-je devenir avec mes enfants ?» Il y a une sorte de noyade, un moment où Monet est véritablement un petit peu la tête qui sort à peine de l'eau. Le paysage à cette époque se met à l'unisson, dans la mesure où l'hiver 1879-1880 est particulièrement rigoureux et où Monet entreprend un ensemble d'œuvres consacrées à la débâcle.
Aussi longtemps que le soleil sera sur elle, il y aura autant de manières d'être de la cathédrale de Rouen. C'est une révolution qui commençait, une nouvelle manière de regarder, de sentir, d'exprimer. Monet va d'abord peindre divers vues générales de Rouen, où on voit la ville vue de haut, où l'on voit des parties de la ville. Ensuite, il va s'approcher de la cathédrale. Il va s'approcher, je dirais, presque progressivement de la cathédrale. Et avant, en effet, de choisir définitivement son motif, il va se placer sur le côté de la cathédrale, et on va avoir en effet un ou deux tableaux où on voit une des tours de la cathédrale avec ce qui se trouvait à l'époque auprès de cette cathédrale et auprès de beaucoup de cathédrales, c'est-à-dire une série de maisons qui venaient s'appuyer à la cathédrale. Et là encore, on voit très bien comment Monet n'a pas était satisfait de cela, parce que cela donne à son tableau un caractère rustique. Autrement dit,
anecdotique.
Or, tout le parcours de Monet, à partir des peupliers et jusqu'au nymphéa, va être en effet de trouver un motif qui s'identifie de plus en plus à la peinture.
Alice, je suis prisonnier, si tu savais. Et pourtant, il me faut aller jusqu'au bout. 14 toiles aujourd'hui. Si j'habitais Rouen, c'est maintenant, seulement maintenant, que je commencerai à comprendre mon sujet.
Il était entouré de ses toiles, n'est-ce pas ? Il envoie une lettre à Alice pour lui dire que dans la même journée, il a réalisé 6 toiles. Il était entouré de ses toiles qui constituaient pour lui comme un atelier. D'ailleurs, dans un des appartements où il travaille à Rouen, il fait construire, pour s'isoler du reste de la pièce, il fait construire une sorte d'atelier en bois. Un atelier qui l'isole du reste de la pièce et qui le projette sur son motif. Mais il y a une histoire des ateliers dans l'œuvre de Monet, à partir de la barque atelier jusqu'à Giverny. Mais cette histoire des ateliers n'est pas une histoire simplement anecdotique, c'est une histoire picturale. C'est-à-dire, c'est l'entrée progressive de Monet dans sa propre peinture.
Je suis furieux après moi, mon ange. Je ne fais absolument rien de bon. Voilà, je ne sais plus combien de séances exactement sur toutes ces toiles. Sacrée toile, je tâtonne.
Marcelin Plénet, on est là devant la façade de la cathédrale de Rouen. Il pleut un peu, on est dans les gris, vert, gris, bleu. Elle est devant nous, un peu écrasante, elle nous surplombe.
Monet va traiter son motif et va traiter de la cathédrale dans ce que je dirais un espace rapproché. C'est-à-dire un espace qui n'autorise pas la perspective, qui n'autorise pas les lignes de fuite, qui vient littéralement s'écraser sur la vision du peintre. Ce motif est un mur, mais qui n'est évidemment pas, comme toutes les cathédrales, qui n'est pas un mur uni. C'est un mur qui a des reliefs plus ou moins grands. On voit que de chaque côté du porche, il y a 2 petites flèches qui viennent en avant du porche lui-même, et que le mur a une série de reliefs et de profondeurs qui se dressent sur toute la hauteur de la façade. C'est-à-dire, c'est un enjeu où, en effet, la profondeur n'est plus une profondeur illusionniste comme dans la perspective, n'est pas une profondeur réelle, mais est ce qu'on pourrait dire une profondeur proprement picturale. Ou, si vous préférez, une profondeur poétique. C'est-à-dire, c'est une profondeur qui est entièrement déterminée par le sentiment que l'artiste ressent devant son modèle. Et évidemment, plus le modèle se rapproche ou plus l'artiste se rapproche du modèle, eh bien, plus il ressent d'émotion devant le modèle.
Alice, si tu voyais, tout change ici, quoique Pierre.
Le plus souvent, la cathédrale occupe toute la largeur du tableau et pratiquement toute la hauteur. C'est une sorte de frontalité qui se dresse avec seulement 2 trous, 2 possibilités de profondeur qui sont les petits rectangles de ciel qui se dessinent entre les 2 tours de la cathédrale. Si l'on regarde les tableaux, eh bien on s'aperçoit que ce relief, il l'a représenté par presque une sorte d'empattement de couleurs. Il a pratiquement tout ramené sur la surface. C'est un peu comme si, au fond, le relief devant lequel il se trouvait, et qui est un relief extrêmement riche, puisque c'est un relief sculpté, et c'est une œuvre d'art, il se trouve devant, il ne faut pas oublier.
Nous ne sommes plus dans la nature.
C'est un grand événement pour Monet de se trouver pour la première fois devant un motif qui est un motif culturel, qui est habité par la lumière. C'est un clavier de relief sur lequel Monet voit s'accrocher la lumière et dont il joue exactement comme un pianiste disposerait de son clavier. Mais regardez un peu, on a cette cathédrale devant nous, regardez comme la lumière habite cette frontalité. Elle ne l'habite pas frontalement, elle l'habite forcément de haut en bas.
Alice, si tu voyais, quel terrible temps il fait ici, et tous ces changements. Je continue cependant à travailler dur et sans arrêt. Mon Dieu, ce que cette matinée de cathédrale est donc dure à faire.
D'abord, il parle de la falaise de la cathédrale. Autrement dit, c'est quelque chose qu'il a au-dessus de sa tête. Eh bien, lorsqu'il entre chez lui et qu'il s'endort, eh bien, il est impossible qu'il n'ait pas, en effet, encore cette cathédrale dans la tête et cette cathédrale dans ses rêves. Et en effet, il rêve que la cathédrale lui tombe dessus. Je pioche comme un enragé. Mais hélas, vous avez tous beau dire, j'ai vidé mon sac et ne suis plus bon à rien. Tout part à la fois. Le temps n'est pas très régulier. Hier, splendide soleil. Ce matin, brouillard. L'après-midi du soleil qui s'est caché juste quand il me le fallait. Demain, ce sera du gris noir ou de l'eau. Ce soir, j'ai voulu comparer ce que j'ai fait avec les anciennes toiles. C'est horrible. Et ce que je fais cette fois est aussi mauvais, autrement mauvais, voilà tout. Il faudra ne pas vouloir faire cela vite. Essayez encore pour refaire une bonne fois. Mais je sens la lassitude venir, je suis à bout, et cela prouve que j'ai bien absolument vidé mon sac. Crébleu, il ne voit pas loin ceux qui me trouvent un maître. De belles intentions, oui, mais c'est tout. Je suis rompu, je n'en peux plus, et j'ai eu une nuit remplie de cauchemars. La cathédrale me tombait dessus, elle semblait bleue ou rose ou jaune.
Cette série des cathédrales, ce point invariant, alors que les cathédrales changent de couleur, changent d'axe de lumière, il y a pourtant un point invariant, absolument identique de cathédrale en cathédrale, qui est un point jaune, qui est planté au cœur du fronton de la cathédrale et qui, lui, ne change jamais de couleur.
C'est une chose, à mon avis, très importante et dont on n'a pas suffisamment parlé, à savoir que ce point que Monet a pratiquement dans son angle de vision, à la hauteur de ses yeux, était à l'époque une horloge qui aujourd'hui a disparu, qui se trouvait juste au-dessus du porche. On a des photos de la cathédrale à l'époque, on voit très bien que c'était un rond avec une horloge et des flèches. Or, Monet le traite comme un soleil. Et on a l'impression que quelque chose irradie de ce cercle et de ce point. Or, ça me semble quelque chose de très, très, très important parce qu'en effet, ça détermine, selon moi, le rapport que Monet entretient avec le temps. Or, le rapport que Monet entretient avec le temps, eh bien, on peut l'associer directement avec la lumière. Il est tellement préoccupé par cela qu'en effet, le temps de Monet ne peut pas être le temps d'une horloge. Ça ne peut pas être un temps chronologique. C'est forcément un temps qui s'éclaire et qui presque, pourrait-on dire, respire. C'est le temps du présent. Il n'y a que du présent. Donc je crois que le temps chez Monet est ce que je dirais un temps strictement poétique. L'article de Clémenceau, La Révolution des cathédrales, se termine par une proposition de doter la France de l'ensemble de ses tableaux. Et à la fin de cet article, Clémenceau s'adresse au président de la République, Félix Faure. Il écrit « Mais vous n'êtes pas seulement Félix Faure, vous êtes aussi président de la République et même de la République française. Allez regarder ces séries de cathédrales en bon bourgeois que vous êtes, sans demander l'avis de personne. Il se peut que vous compreniez, et songeant que vous représentez la France, l'idée vous viendra peut-être de doter la France de ces 20 toiles qui, réunies, représentent un moment de l'art, c'est-à-dire un moment de l'homme lui-même, une révolution sans coup de fusil. »
On va rentrer à l'intérieur de la cathédrale, on va passer de l'autre côté du tableau et peut-être rentrer dans un univers de couleurs peut-être un peu inattendu, on va voir.
Vous voyez, je viens de compter les pas qui séparent la maison où Monet a travaillé du parvis de la cathédrale, de l'entrée dans la cathédrale. Il y a 50 pas, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 50, il y a à peine 50 mètres. À peine 50 mètres. Donc c'est extrêmement proche. Il a travaillé de façon extrêmement proche de son motif.
Et on a pu constater que fur et à mesure que l'on avançait, la cathédrale nous tombait dessus.
La cathédrale nous tombe dessus, c'est-à-dire elle devient de plus en plus haute et notre angle de vue forcément change et elle s'élargit d'autant.
Donc, passage de l'autre côté du miroir. Donc, nous voilà à l'intérieur de la cathédrale. Alors, Marcelin Blenet, j'ai une hypothèse à vous soumettre. En fait, je me demandais s'il n'y avait pas dans la variation colorée des cathédrales quelque chose comme le souvenir de l'intérieur de la cathédrale et de la lumière des vitraux et de la couleur que font les vitraux et qu'il y aurait quelque chose comme le cœur de la peinture remontant à la surface qui serait la mémoire de cette lumière intérieure de la cathédrale.
Écoutez, je crois qu'il faut prendre ça d'un point de vue tout à fait métaphorique. Littéralement, certainement pas. En fait, certainement. Et dès qu'on entre dans cette église ou dans cette cathédrale, on s'aperçoit que l'intérieur est coloré, la couleur est à l'intérieur. Alors métaphoriquement, pour la peinture, c'est évidemment toujours cela. Autre chose me frappe maintenant, ici, dans cette cathédrale, c'est l'extraordinaire beauté du volume de cette nef. Et je crois que, si je puis me permettre cette expression, à l'intérieur de la peinture, eh bien, on ressent en effet ce volume et cette présence. Mais c'est un volume et une présence qui ne participent que de l'artiste, que de celui qui a fait le tableau.
Redoutable que de parier sur la légèreté, l'insignifiance, le côté frivole. Mais je crois qu'en pénétrant dans l'univers de Monet, on verra combien une fleur peut venir à occuper l'ensemble d'une vie, la totalité d'une existence, le cadre subitement assez vide de la représentation.
On continue notre parcours, direction Giverny maintenant.
Et avec grand plaisir.
Ouais, le ciel s'est un peu éclairci
absolument,
d'ailleurs.
Absolument, le soleil s'est levé.
Direction jardin et maison.
La façade de la cathédrale doit être dorée maintenant.
Michel Katz, j'aimerais que vous me racontiez cette expérience de peintre, peut-être carnet à l'appui, qui vous a mené il y a quelques années au bord de la Seine.
La Seine, c'est exactement le paysage de Giverny. Je me suis installée sur une sorte de passerelle qui était au-dessus de l'eau. Je voulais comprendre comment le flux de l'eau fluait et comment cela se tressait avec les reflets des arbres, donc comme on voit à Giverny. Et dans un premier temps, bon, j'avais donc mes aquarelles, mon papier, c'était de l'aquarelle et un matériel léger. Et je suis restée là, 3 jours et presque 3 nuits. Mes premières aquarelles, j'ai fait une dizaine de carnets à ce moment-là. J'ai retrouvé sous mon pinceau les réminiscences, disons impressionnistes. Je me suis aperçue que, en fait, si je commençais à vouloir d'abord peindre le flux de l'eau, je me coupais l'herbe sous les pieds, si j'ose dire. Le flux sous les pieds. Je ne pouvais pas aller plus loin. L'effet de reflet qui est très important, puisque ce plan, non seulement il est horizontal, mais en même temps, il reflète tout ce qui est au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'en fait, la verticalité est donnée par la notion de reflet. Et en ce temps-là, quand j'ai fait cette expérience de l'eau, dont j'aimerais bien en parler très profondément, je me suis aperçue que la première chose à faire, c'était de travailler le reflet, ce qui paraît anti-narratif. Pour tout peintre naïf, on commence par, comme ils disent, faire l'eau, et puis ensuite faire le reflet, puisque le reflet est censé venir après. La présence de l'eau, dans le sens de « et Dieu créa l'eau », bon, le reflet du ciel, de la terre dans l'eau, etc., vient après. J'ai découvert que l'inscription du flux, l'écriture du flux, devenait quelque chose de multiple, un peu proliférant, répétitif aussi. Entre les deux interventions, donc l'intervention du reflet et l'intervention du flux, il y avait suffisamment de temps d'oubli pour que ça fasse espace.
J'ai pas la barbe.
Où, à droite ou à gauche?
Non, je vous emmène à la maison là-bas.
D'accord.
Monet s'installe à Giverny et curieusement, alors que c'est une période souvent annoncée comme une période de calme, de repos et en fait le lieu devient unique, curieusement en parallèle à ça, Monet met en place toute une période de voyage, comme s'il avait besoin de quitter régulièrement Giverny pour aller travailler ailleurs.
Les campagnes de peinture, puisqu'il faut les appeler comme ça, elles se déroulaient un petit peu selon un schéma répétitif, dans la mesure où le peintre partait seul, préférant être seul devant le motif, comme il le disait à Rouen, je suis ici pour ma cathédrale, et les voyages se succéderont, la Creuse en 1889, auparavant il y avait aussi Antibes, Bordighera, vous avez en 1884, également donc en 1895 la Norvège, auparavant les deux années consacrées à Rouen en 1892 et 1893, les deux hivers consacrés à la cathédrale de Rouen, donc 1895 la Norvège, 1899, 1900, 1901 Londres et également 1908 Venise.
Je ne sais pas si ça vous convient la salle à manger.
Ça sera très bien.
Oui.
On va
arriver.
Oui, bien
sûr. Oui, je vais vous voir.
Fais attention au filtre. Vous êtes en train aussi de vous occuper du jardin.
Oui, mais ça fait les jardiniers, les chefs jardiniers, c'est comme ils sont occupés.
J'ai prélevé sur son parcours un moment de vacances, de sortie, de voyage. À un moment donné, juste après l'acquisition du jardin de Giverny, Monet décide d'aller séjourner sur Riviera italienne à Bordighera. Et là, on va voir encore plus qu'à Giverny ce qui se passe entre Monet et le motif floral. On va voir un petit peu ce qui s'engage d'un petit peu glauque, d'ambigu, d'ambivalent par rapport au motif floral. Il dit qu'il s'enfonce dans ce qu'il appelle le fouillis. Horizon de montagne et de Méditerranée, tapis de violette barrant le chemin, anémones roses et rouges à chaque pas, et sans fin, cette admirable lumière rose, inondant les arbres fruitiers, cet enchevêtrement d'arbres, de fruits et de fleurs. Je cite ici là une lettre de Monet à sa femme Alice. C'est tellement touffu partout. C'est délicieux à voir. On peut se promener indéfiniment sous les palmiers, les orangers, les citronniers et aussi sous les admirables oliviers. Mais quand on cherche les motifs, c'est très difficile. On voit, et je crois que c'est au cœur de l'expérience picturale de Monet, il en est submergé. Dans une autre lettre, on lit « Je suis épouvanté des tons qu'il me faut employer. J'ai peur d'être bien terrible. Et cependant, je suis bien dessous. » Monet sera toujours en dessous. Il faut savoir qu'à ce moment, monsieur et madame Monet ne sont pas mariés. Donc c'est toujours sa maîtresse. Monet, à la fin du séjour, se retrouve avec une trentaine de toiles à terminer. Et c'est l'affolement. Le séjour à Bordighera durera 3 mois, selon une courbe identique à tous les séjours de Monet. C'est-à-dire euphorie des premières semaines, déclin des certitudes et à la fin, le chaos. Je crois que par rapport au motif floral, il faut relever la peur panique que ce motif peut occasionner pour un peintre comme lui. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Le jardinage, c'était une constante passion, une monomanie, une fièvre, une sorte de tumulte calme. La prolifération dans le jardin est voulue, contrôlée, guidée. Où s'arrête un jardin? Les fleurs immenses bouchent toute perspective. Les feuillages aigus et dressés des iris montent jusqu'à la mi-jambe et partout alentour s'élancent des pieds d'alouette de 2 mètres de haut et une forêt d'épis géants de toutes les variétés de bleu. Un paysage si paisible qu'il semble en dehors du temps, étranger à l'histoire et clos sur lui-même comme un théâtre vide entre les portants de feuillage. C'est la seule chose que je veux dire là. C'est que il faut éprouver la plus grande méfiance et donc le plus grand intérêt pour un jardin, mais surtout pour un jardin à la Monet.
Voilà Marcelin Plenet, nous voilà donc dans les coulisses, dans ce petit paradis artificiel en quelque sorte de Claude Monet. Comment vous la voyez cette maison?
Ce qui me frappe comme chaque fois ici, c'est à quel point dès qu'on entre dans cette pièce et dès qu'on entre dans cette maison, l'œil est comme lavé de toute agressivité. Cette salle à manger qui n'est pas tout à fait jaune, qui tire vers le jaune, mais qui est entre le jaune et le sable. On voit très très bien que le regard s'y repose, que le regard a cessé de travailler et qu'il se repose, comme si on fermait les yeux sur de la couleur.
Vous ne trouvez pas que cette façon de répandre la couleur sur la totalité de cette pièce, c'est-à-dire les meubles, les chaises, les armoires, le plafond, le sol, la table, tout est absolument peint en jaune, provoque quelque chose un peu comme on pourrait dire comme un pansement apaisant.
Je pense que c'est fait pour la brûlure de l'œil. Et ici, en effet, tout est diffus. L'ensemble est une sorte de Bichromie, oui, parce qu'il y a d'autres couleurs. L'ensemble de la couleur...
C'est du monochrome.
Absolument, c'est comme un monochrome. Comme si on nageait dans la couleur.
On va nager dans du bleu. Vous m'accompagnez ? Là, c'est la cuisine. Donc, on a changé de monochrome.
Oui, nous ne sommes pas dans un tableau. C'est pas, nous sommes dans la maison. Nous sommes dans la maison, nous sommes dans le lieu où il habite lorsqu'il n'habite pas à l'intérieur de sa peinture.
Peut-être le moment de faire le portrait de Alice Ojeda, en fait.
Alice Ojeda, c'est très difficile de faire son portrait, car justement, plusieurs points d'interrogation subsistent. Quelle était exactement la personnalité de cette femme, qui finalement aurait une vie assez extraordinaire. Femme donc du collectionneur Ernest Ojeda, qui était un négociant. Ensuite, prenant une place grandissante dans la vie de Monet, dans cette période de Véteuil, où elle s'occupe donc des deux jeunes enfants de Monet, Jean et Michel, et ensuite sa place de plus en plus forte auprès de Monet. Bien sûr, elle a fait preuve d'une très grande compréhension, puisqu'elle a laissé partir très souvent Monet seul devant le motif. D'ailleurs, il s'en justifie très souvent dans sa correspondance, en disant qu'il a besoin donc d'être seul devant le motif et qu'il lui demande d'être compréhensive.
C'est un couple assez étonnant, ce couple-là.
Un couple assez étonnant, d'après ce qu'il transparaît justement dans la correspondance. Alice Ojeda, Monet, devait certainement être une maîtresse-femme pour tenir une maison, et également, elle a certainement eu un caractère très affirmé pour mener toute cette bande d'enfants, à la fois les siens, les enfants Ojeda, et à la fois les deux enfants de Monet.
Surtout par les photographies que l'on possède de lui, on voit un vieux magnifique et serein, entouré donc de ses enfants et donc de ses jardins, avec sa grande barbe blanche et son chapeau de paille, sa grande maison bourgeoise et ses habitudes culinaires également tout à fait bourgeoises. Dans tout ça, je voudrais insister sur le dessous des choses. C'est un homme extraordinairement angoissé, sujet à des coups de colère, à des emballements, des emportements qui, littéralement, ont dû terroriser son entourage.
Les Japonais aiment bien quand ils viennent ici, et ils sont aussi étonnés de voir beaucoup d'estampes ici à Giverny.
Vous savez comment Monet a commencé à s'intéresser aux estampes japonaises ?
Ben, d'après ce que j'ai lu dans un livre, c'est lors d'un voyage qu'il a fait en Hollande, en 1871.
Et alors ?
Parce qu'autrefois, les Hollandais recevaient beaucoup de marchandises en provenant du Japon.
Vous savez si Monet est parti au Japon ?
Il n'est pas allé au Japon.
On a l'exemple, effectivement, d'autres collectionneurs.
Geneviève Aiken.
On connaît la collection d'Auguste Rodin. On connaît celle de Pissarro. On connaît celles qui suivront, c'est-à-dire celles de Vuillard, de Bonnard. On pense aussi à des échanges qu'il y aurait eu entre des Japonais ou des amateurs de japonaiserie, et les tableaux de Monet. C'est une valeur d'échange. Et Van Gogh procédait de même pour ses tableaux. C'est-à-dire qu'en échange de tableaux, par exemple, Hayashi lui a donné des estampes de Kusai, d'Utamaro et des Shi. La collection comporte 231 gravures, donc estampes japonaises. Par contre, on se rend compte qu'il y a très très peu d'Harunobu, des estampes, des petits formats d'Harunobu, qu'il n'y a pas de shunga, c'est-à-dire d'estampes érotiques, et qu'il n'y a pas non plus d'œuvres d'artistes primitifs. Ce qu'il ressort à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement, il y a des Utamaro, il y a des Hiroshige, il y a des Okusai. Utamaro, ce qui est un petit peu étonnant, puisque ce sont beaucoup de représentations féminines qui ne semblent pas forcément intéresser l'artiste.
Alors, vous parlez également d'un style qui s'appellerait le style ukiyo-e,
c'est ça, qui définirait en fait la collection des estampes de Monet.
C'est très difficile de trouver un équivalent à ce mot ukiyo-e. On a tendance à le traduire par image du monde flottant ou image du temps qui passe. En fait, ce monde flottant, on peut le traduire aussi par les images de la vie quotidienne.
On va se promener dans la maison.
Une porte qui va à la chambre ou n'importe.
Peu importe.
Bon, d'accord, je peux pousser ici.
Voilà, je vais vous aider ça.
Peut-être que vous pouvez monter les marches.
Donc, ensuite.
Puisqu'on parlait de monochrome, qu'est-ce que vous pensez de ce bleu? C'est une couleur importante pour Monet. C'est la couleur qu'il a choisie, là en l'occurrence, pour la cuisine.
Oui. Ce qui me frappe, c'est que ce bleu apparaît dans une pièce où l'on travaille. C'est une pièce où l'on fait la cuisine, c'est une pièce où l'on travaille. En ce sens, et les peintres reconnaîtront ça facilement, cette pièce est beaucoup plus proche de l'atelier qu'aucune autre pièce. Elle est beaucoup plus proche de la cuisine picturale, si je puis dire, qu'aucune autre pièce.
C'est une maison qui est ouverte sur le jardin. Alors là, c'est l'heure du soleil couchant, puisqu'on a déjà fait tout notre parcours. Mais en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est lové dans la couleur, bleu ou jaune, selon la pièce, et qu'on a une trouée sur le motif, sur le jardin, et donc sur les fleurs.
Ici, à Giverny, il a lui-même construit son propre motif. C'est-à-dire qu'on a presque une double œuvre d'art. On voit très très bien comment Monet en arrive à ne choisir comme motif, à travers le jardin et à travers les nymphéas, à ne choisir comme motif que ce qu'il a déjà construit lui-même.
Catherine Larose, en fait, qu'est-ce que c'est un jardin familial ? Le jardin familial se construit un peu de façon désordonnée, parce que bien que certaines personnes soient très versées en botanique, on obéit toujours à des coups de cœur, à des impulsions, on essaye une plante, on l'enlève, on la trouve pas belle, on en remet une autre. Et finalement, un jardin se construit comme ça, sur des passions successives. Et le jardin familial, il a toujours un côté, un petit peu comme un appartement où vivent une nombreuse famille, c'est-à-dire avec des objets plus ou moins hétéroclites qui sont rassemblés, des petits souvenirs de voyage, des objets d'art. Et le jardin familial, c'est un mélange entre tout ça. Il y a à la fois des plantes très rares et puis des toutes petites choses qui sont des petites choses qu'on aime parce qu'elles sont tendres, parce qu'elles sont délicates.
J'ai envie de dire que avec Monet, nous assistons à l'événement suivant. L'intérieur aurait complètement absorbé l'extérieur. C'est une clôture. Je crois que la nature subit un effondrement radical avec Monet.
Peut-être que le jardinier, c'est cela, c'est celui qui justement la prend à bras le corps, la nature, prend la fleur de face, de front, ouais, comme sa peinture, et par cette guerre menée avec la nature, il la remaîtrise, réinvente, replante, refabrique, et rien de moins naturel que le jardin de Giverny.
Oui.
En fait. Jusqu'au bassin d'eau, qui est une pure invention de Monet.
Oui, voilà, un beau mot, invention.
ce que j'aime dans ce jardin japonais, c'est le point d'eau qui rassemble les regards, qui attire les regards, suscite en permanence l'admiration chez les visiteurs. Puis moi, j'ai un endroit que j'aime beaucoup, qui est précisément un endroit que personne ne regarde, qui est cette lisière avec le champ voisin. Et ce que j'aime, c'est voir le contraste justement entre l'espace... L'espace construit du jardin, l'espace extrêmement pensé, et puis de l'autre côté, les graminées, les vaches au loin, et puis les collines.
Semis, environ 300 pots pavots, 60 pots poids de senteur, environ 60 pots hégémone blanche, 30 jaunes, sauge bleue, nymphia bleue en terrine. Dahlia, iris, du 15 au 25 du mois, mettre les dahlias en végétation sur couche. Bouturer avant mon retour ceux qui sortiront. Pensez aux bulbes de lys. Si les pivoines arrivent, les mettre de suite en place si le temps le permet. En ayant bien soin d'abriter pendant les premiers temps les bourgeons du foie, comme de l'ardeur du soleil. S'occuper de la taille. Les rosiers pas trop longs, sauf les variétés épineuses. En mars, semer les gazons. Bouturer les petites capucines, avoir bien soin dans la serre du gloxina, des orchidées, ainsi que les plantes sous châssis. Mettre en place les bordures comme c'est convenu, installer les fils de fer pour les clématites et pour les rosiers sarmenteux. Planter les éclats de rosiers du bassin autour du fumier dans les poulaillers. Planter aussitôt les Helianthus latiflorus en bonne touffe. Activer la gestation des chrysanthèmes et ne pas oublier de remettre les toiles sulfatées sur les châssis de la serre. De même que le Joyce de Finnegan's Wake ne pourra pas laisser ses fleurs tranquilles, qu'il lui faudrait les broyer, les triturer, jusqu'à ce que leur équivalent langagier soit méconnaissable. De même, Monet.
Le peintre serait en fait ce premier homme d'après le déluge.
Je voudrais essayer de faire une sorte de rêve où on retrouverait en même temps l'homme qui est le premier homme qui est sorti du déluge, qui a vu l'eau, donc vous imaginez l'eau sur toute la terre, le premier homme qui voit cela, et le petit enfant qui se voit pour la première fois dans le miroir. Il voit quelque chose, et dans l'image, dans le miroir, quelque chose lui échappe, que je pense les peintres n'oublieront jamais. C'est lié à ce que Lacan théorise à propos de la tâche. À la tâche, c'est-à-dire que ce qui fait regard, c'est pas de la ligne, c'est quelque chose qui vient m'aveugler, qui fait tâche. Et toute les nymphéas, on peut se demander pourquoi il a mis des fleurs, etc. En fait, les nymphéas sont des magnifiques fleurs qui poussent sur le plan horizontal de l'eau. Bien sûr, ça inscrit l'horizontalité, le plan horizontal. Ce plan horizontal, quand il est rabattu sur le plan intersecteur, comment cela va-t-il produire cet effet extraordinaire de vertige, de profondeur ? Et quand on regarde de près, sauf quelques exceptions, il y a fort peu d'arbres dans les nymphéas, il y a quelques scansions comme ça, vertical. Sur 5 mètres ou sur 6 mètres, nous n'avons pas de vertical. Et nous sommes pris dans cette errance parce que chaque point des nymphéas fait tâche et c'est là où ça nous regarde. Et à partir de ces tableaux-là, il commence à travailler ce que moi j'appelle la double intervention. Et c'est extraordinaire de le voir. Les premières couches sont faites très à sec, avec des pinceaux très à sec. La trame de la toile est présente à l'œil du spectateur. Et finalement, ceux qui regardent le spectateur, ce sont des touches épaisses posé au pinceau, très souvent fait avec deux couleurs différentes. C'est d'ailleurs en quoi il est du côté encore de l'impressionnisme et non pas du postmoderne. Mais on voit très bien cela. Et la touche apparaît comme petit à petit dévorant tout ce qui est du linéaire. L'œil du spectateur est regardé par les taches de rose, de mauve, de jaune que lui-même a appelé Naphéa.
Marcelin Plenet, dans son très beau travail sur Monet, il fait remarquer que tout le monde associe Monet au Nymphéa. Mais ce que peut-être tout le monde ne sait pas, c'est qu'une nymphe, c'est une maîtresse, une jeune fiancée. Et qu'également, la nymphe en anatomie, c'est la partie du corps féminin qui recouvre le clitoris et qui protège l'entrée du vagin. Donc cette affaire est délicate.
Il y a un côté froissé dans le pavot, comme une robe à peine dépliée, où s'est plissé Fortuny, qui était très, 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 très fin. Et il y a quelque chose d'une sensualité incroyable dans le pavot, ces fleurs qui ont l'air jamais à peine écloses, à peine réveillées, enfin, qui s'offrent au soleil avec nonchalance, et tout ça avec des coloris absolument extraordinaires, vraiment comme des failles, des tissus de soie. Et avec ces pistils qui sont sombres. Alors c'est à la fois une fleur qui est sombre, qui est violente, et en même temps d'une douceur et d'un abandon, d'une nonchalance. Dans le pavot, il y a une transparence, mais la fleur est tellement pigmentée que cette transparence, elle est très sourde. C'est un petit peu comme un rideau de couleurs qui serait posé devant la lumière, mais un rideau sombre, un rideau de velours rouge, de velours pourpre. Et on aurait un peu de mal dans cette pièce à distinguer la lumière. On sait qu'elle est derrière, mais on a un peu de mal à la distinguer.
Il y a un texte terrible d'Octave Mirbeau, qui, vous savez, était un grand ami à Monet, qui date de 1899, l'année même où Monet commence sa série des ponts japonais. Ce texte s'intitule « Le jardin des supplices » et c'est un texte qui nous fera entrer dans l'univers du marquis de Sade et de Georges Bataille. Je crois que c'est un texte contre, tout contre l'univers de Monet. J'aimerais bien vous le lire.
Allons-y.
Clara, la narratrice, dit à son amant, « Vois mon amour, comme les Chinois sont de merveilleux artistes, et comme ils savent rendre la nature complice de leur raffinement de cruauté. Ici, c'est parmi les fleurs, parmi l'enchantement prodigieux et le prodigieux silence de toutes les fleurs que se dressent les instruments de torture et de mort. Tu vas les voir tout à l'heure, si intimement mêlés aux splendeurs de cette orgie florale, aux harmonies de cette nature unique et magique, qu'ils semblent en quelque sorte faire corps avec elles, être les fleurs miraculeuses de ce sol et de cette terre. Des pétales d'arbres tombent sur leur tête devant des jardiniers qui font courir des clématites sur les armatures de bambou, enroulent des hippomées sur les tuteurs de bois, soignent les lys parsemant les pelouses et la multitude affolante des pivoines. Rien n'y manque et tout se résume. Les parfums étourdissants et les cours suppliciés dans les troncs évidés des arbres comme des fantômes d'amadriades. Cynthia et Nelumbium animent l'eau de leurs feuilles processionnelles et de leurs corolles errantes jaunes, mauves, blanches, roses, pourprées. Des touffes d'iris dressent leurs hampes fines, haut desquelles semblent percher d'étranges raisons symboliques. Des butambes panachés, des cypérus parés à des chevelures, des lusules géantes, mêlant leur feuillage disparate aux inflorescences paliformes et bulboïdes des plus stupéfiantes aromatiques. Par une combinaison géniale, sur les bords du bassin, entre les scolopendres gaudronnés, les trolls et les inules, des glycines artistement taillées s'élèvent et se penchent en voûte au-dessus de l'eau qui reflète le bleu de leurs grappes tombantes et balancées. Les amants traversent le pont une dernière fois après avoir épuisé l'horreur des dernières visions et sur lequel ils s'arrêtent un moment, regardant les iris aux formes semblables à des caractères kabbalistiques et se penchant vers les nymphéas qui font au narrateur l'effet de têtes flottantes et coupées, entre lesquelles nagent des cyprins, parés à des pensées rouges dans le cerveau d'une femme.
Louis Kahn.
Les nymphéas, ce n'est même plus une démonstration de gestualité, c'est autre chose. Hein. Je dirais que c'est une atomisation du geste. Il dénaturalise le geste.
Qu'est-ce que vous appelez dénaturalisation du geste ?
Déjà, à la Renaissance italienne, on questionnait à savoir s'il fallait laisser des traces de pinceau. Le sfumato, qui est en vigueur à la Renaissance italienne, ce sont des fonds qui sont très vaporeux, très philosophiques, très loin, et qui amènent un bonheur au fond du tableau, etc., où il n'y a pas de traces de pinceau. L'impressionnisme produit une révolution très importante par rapport à la peinture de salon de son époque, et principalement parce que la sexualité dont nous rend compte l'impressionnisme est une sexualité à vif sur le tableau. Et ça l'est, cette sexualité à vif sur le tableau, parce qu'on peut voir la trace du pinceau.
Nous avons, avec les nymphéas, probablement le premier environnement de l'histoire de l'art du XXe siècle.
Dominique Dupuy-Labbé.
Deux salles dans lesquelles pénètre le spectateur et il est immédiatement immergé dans la peinture, comme le dit un des critiques, un des amis de Monet, Louis Gillet, c'est une peinture qui n'a ni bord ni cadre, une peinture qui se prolonge d'elle-même, qui permet l'intimité immédiate avec celui qui regarde. C'est une peinture dans laquelle on ne trouve plus le point de tension, ce point de fuite qui était celui de toute la peinture occidentale, qui a été déjà brisé avant lui par les fauves et les cubistes. Le centre de la peinture explose en quelque sorte, et il explose par la fragmentation de la touche et par cette pulvérisation en quelque sorte de la couleur qui s'empare de toute la surface de l'œuvre. Et on peut dire d'une certaine manière qu'effectivement, Claude Monet est probablement le père du all-over pratiqué par tous les abstraits américains.
Pierre Georgel.
L'entrée des nymphéas se faisait directement par la terrasse, c'est un détail très important, c'est-à-dire que les visiteurs arrivaient en suivant la terrasse du bord de l'eau avec la vue de la Seine et dans une promenade horizontale sur la terrasse. Ils n'avaient que 3 ou 4 marches à monter pour rejoindre le niveau intérieur de l'orangerie et ils se trouvaient de plein pied ensuite avec les nymphéas.
Je vous laisse passer.
Il s'agissait d'un vestibule elliptique, comme les salles des nymphéas elles-mêmes. Et de part et d'autre du vestibule, deux portes vitrées sur la Seine et sur le jardin étaient ouvertes en permanence. De telle sorte que le visiteur était invité, avant même d'entrer dans l'univers autonome des nymphéas, à récapituler en quelque sorte la vision de la Seine, du jardin et de la lumière naturelle.
Donc on continue à rentrer petit à petit. Alors là, juste avant, nous sommes devant une plaque. Ça vous embête de me la lire ?
Les nymphéas de Claude Monet constituent le testament artistique et spirituel du peintre. C'est le jour de l'armistice, le 11 novembre 1918, que Monet décide d'offrir à la France, entre guillemets, comme un bouquet de fleurs, selon son expression, des toiles inspirées par le jardin qu'il a aménagé dans sa maison de Giverny. C'est finalement 8 grandes compositions qu'il exécute pour être installé à l'Orangerie des Tuileries, dans une disposition architecturale approuvée par lui. Selon sa volonté, ces salles n'ont été ouvertes au public qu'en 1927, après sa mort.
Ce qui est intéressant dans cette histoire, dans cette offre de Claude Monet, c'est que Georges Clemenceau la prend au vol. Dès le lendemain, il court à Giverny. Et à un moment, où on peut penser qu'il a autre chose en tête. On est au lendemain de l'armistice, il y a la France à reconstruire, des gouvernements à rebâtir. Donc des enjeux qui semblent autrement plus importants que d'aller voir un peintre, si grand soit-il, si représentatif de la France soit-il, Clémenceau se rend à Giverny. Et moi, j'y vois, dans ce geste de Monet, et dans cette réponse immédiate de Clémenceau, j'y vois une formidable réponse qui est une pulsion de vie de la part de deux vieillards face au carnage qu'a constitué la Grande Guerre.
Parmi les idées qui ont été soulevées par Monet à cette occasion, il y avait celle de faire arriver les visiteurs par le sol, je ne sais plus si c'est par un escalier ou par un ascenseur, qui aurait permis d'émerger directement dans cette espèce d'aquarium, de bocal, de peinture, sans même l'interruption imposée par les portes, comme c'est le cas maintenant.
Il y avait donc cette idée d'arriver par en dessous de l'eau pour surgir à la hauteur des nymphéas.
Oui, et surtout l'idée d'un flot littéralement ininterrompu de peinture. On était dans l'ordre de l'illimité, de l'absolument illimité.
Et qu'est-ce que vous pensez de l'effet de rotondité comme ça de ces salles ?
C'est l'idée d'une forme parfaite qui est celle de l'ellipse et de deux ellipses identiques reliées par des passages eux-mêmes courbes qui suggèrent une démarche sinueuse et ininterrompue.
Peut-être un petit peu également ce dessin de l'infini au sol entre
absolument,
les deux.
Absolument, c'est vrai. Quand on regarde en plan l'installation des nymphéas dans son état définitif, on a l'impression d'une image de l'infini.
Il a vu, mais il a mis une vie à le voir. Quelque chose qui nous plonge dans l'expérience du non-voir, de ce qui est caché, mais non seulement caché, impossible à voir. Et je me suis dit, cet homme est fasciné par... cet homme désire mourir par l'eau. Il voulait aller dedans, plonger dedans.
Peut-être on peut aller voir la deuxième salle.
Dans la deuxième salle, trois des panneaux sont en quelque sorte cadrés, encadrés par la présence des arbres, des saules.
Voilà, qui agissent, voilà dans la deuxième salle. Donc.
Qui agissent à la façon de ce qu'on appelait dans le jargon des peintres au XIXe siècle, des repoussoirs. C'est très important parce que là, l'un des propos fondamentaux des nymphéas, c'est de relâcher les cadres de la pensée logique, de la pensée discursive, de la pensée qui, comme l'indique le terme discursif, va d'un point à un autre, et au contraire de laisser monter dans le sujet, dans le visiteur, les, les impulsions du désir qui vous porte vers un objet.
Il est indéniable que, à la fin, Monet triomphe. Hein, il arrive à y voir clair. En perdant la vue, bien sûr. Hein. Il arrive à produire de la lumière. Mais à quel prix ?
Sorti du tableau et remonté à la surface du regard, c'était sous l'onde, à en perdre l'œil, Claude Monet. Un remerciement chaleureux à Marcelin Plenet, poète, qui nous a accompagnés sur les traces du peintre et auteur de la fiction Le propre du temps chez Gallimard. Vous pouvez faire connaissance avec l'œuvre de Michel Katz à la galerie Claudine Lutzmann. Quant à Georges Collins, philosophe et grand amateur de peinture, il sera l'auteur du catalogue de l'exposition François Molignat au Crédac d'Ivry. Louis Kahn, artiste peintre, travaille tous les jours dans son atelier parisien. Catherine Larose est l'auteur de L'histoire sensuelle des jardins, Orban 91. Merci pour leur accueil au musée de l'Orangerie, à Pierre Georgel, conservateur, et Dominique Dupuis-Labbé, commissaire de l'exposition Louis Kahn, Les derniers nymphéas. Geneviève Aitken, auteure de la collection des stampes japonaises de Claude Monet pour la Bibliothèque des Arts, et Sylvie Patin, conservatrice au musée d'Orsay, et auteure de Monet, un œil, mais bon Dieu quel œil, dans la collection Découverte Gallimard. Puis Giverny, bien sûr. Merci à la Fondation Claude Monet pour son accueil dans les coulisses de la Maison du Peintre. Une suggestion. Un beau livre, chez Azan, Monet, en mer du Nord. Le tout pour une émission proposée par Stéphanie Katz et réalisée par Isabelle Huel. À la prise de son et au mixage, Emmanuel Colchet, Nathalie Fado et Olivier Dupré. Thank you.